Nous sommes les CM2 de l'école Rosalind Franklin et nous allons vous présenter les actualités de Radio Cartable pour ce jeudi 1er décembre.
Bonjour, je m'appelle Bilal.
Et moi, Rian.
Kadiatou.
Bonjour, je m'appelle Ndiaye.
Voici les titres.
Nous sommes maintenant 8 milliards d'habitants dans le monde.
L'ONU a annoncé ce chiffre, nous expliquerons la mission de l'ONU.
Et enfin, nous parlerons d'Irène Nagle. C'est une scientifique ivrienne.
Actualité internationale.
La population de tous les pays du monde augmente beaucoup depuis 1950.
Mardi 15 novembre 2022, l'ONU a estimé que la population de la planète atteint 8 milliards d'habitants d'habitantes.
Est-ce que c'est sûr ?
Non, c'est une estimation. Ça veut dire que ce n'est pas forcément tout à fait cela. Ce n'est pas exactement ce chiffre, mais c'est environ 8 milliards.
En 2080, nous serons peut-être 10 milliards 400 millions d'habitants d'habitantes.
Pourquoi la population augmente ?
Parce que les nouveau-nés sont plus nombreuses que les vieilles personnes qui meurent.
Quel est le pays le plus peuplé au monde ?
Aujourd'hui, c'est la Chine. Mais l'an prochain, l'Inde va devenir le pays le plus peuplé avec 1,4 milliard d'habitants d'habitantes.
Annoncer ce chiffre permet d'avertir les gens.
Tout le monde va être au courant que l'on est de plus en plus nombreux sur la Terre. Et peut-être qu'on pourra faire attention à baisser chacun notre consommation de viande, par exemple.
L'ONU, ça veut dire l'Organisation des Nations Unies.
Elle a été créée en 1945 après la Seconde Guerre mondiale. Presque tous les pays du monde appartiennent à l'ONU.
L'ONU se réunit à New York aux États-Unis.
L'ONU sert à maintenir la paix dans le monde. Ses moyens d'action, ce sont les casques bleus. Les casques bleus sont des soldats de la paix. Ils ont le rôle de protéger les habitants et habitantes.
L'ONU essaye d'arrêter les conflits entre les pays.
Par exemple, elle pourrait arrêter le conflit entre la Russie, l'Ukraine et la Russie.
Oui, mais regarde, si on cherche à faire la paix dans une bagarre à la récréation, c'est pas facile.
On peut se prendre des coups.
Et si on rentre dans des histoires en cherchant qui a fait quoi, on peut redéclencher une bagarre ou même empirer la situation.
Donc l'ONU a beaucoup de travail pour défendre la paix.
Dans le journal Ivry Ma Ville, j'ai été intéressée par le portrait d'une scientifique.
Elle s'appelle Irène Nagle et elle est ivrienne.
Elle défend la science éthique.
Ça veut dire quoi une scientifique éthique ?
C'est une scientifique qui fait des choses justes.
Déjà, l'égalité, les femmes ne représentent que 28% des chercheurs, chercheuses en France, dans le monde. Les sciences ne sont pas réservées aux garçons.
Irène Nagle, elle a appris à faire de la science et elle est aujourd'hui biophysicienne.
À 27 ans, elle a déjà reçu un prix. Elle cherchait à recréer nos muscles en laboratoire.
Ça sert à quoi, ça ?
Ça sert à mieux comprendre les muscles sans tuer les animaux et après cela peut aider à soigner les maladies musculaires.
Elle a un exemple pour nous les filles pour montrer que les filles peuvent faire tous les métiers.
Les actualités d'ici et d'ailleurs, c'est fini pour aujourd'hui.
La source de nos informations était Un jour une actu pour la population mondiale et l'explication de l'ONU.
êtes bien sur Radio Libertaire 89.4. Vous allez écouter l'émission Bibliomanie, aujourd'hui présentée par Valère-Marie Marchand avec à la technique Flo Descailloux qui vous réserve sa sélection musicale. Nous avons la joie de recevoir Franck Courtès pour un livre que j'ai beaucoup apprécié, À pied d'œuvre, qui est paru chez Gallimard. Franck Courtès, bonjour.
Bonjour.
Donc c'est vrai, c'est votre sixième livre.
Oui.
Hein, et avec ce titre, À pied d'œuvre, et vous citez en exergue d'ailleurs un auteur, moi, un poète que j'ai beaucoup aimé, qui est parti assez tôt, c'est Thierry Metz, journal d'un manœuvre. Tu n'as pas de métier, non, tu pourrais apprendre, maçon, c'est mieux que manœuvre, oui, peut-être, mais tout le ton est là. C'est vrai que Thierry Metz, c'était l'art du peu, l'art de faire de la poésie avec trois fois rien. Ma première question, pourquoi le choix de ce titre À pied d'œuvre? Est-ce que vous avez choisi le titre avant d'écrire votre livre, ou est-ce que ce titre s'est imposé à vous?
Alors, le titre n'était pas À pied d'œuvre pendant toute la... Pendant le titre de travail, c'était Main d'œuvre.
Parce qu'il
y avait la main qui écrit, la main qui travaille. Et on s'est rendu compte quelques jours avant la fabrication que le titre avait été pris par un recueil de poésie des années 40 et par guide conscience, comme le recueil appartenait à la maison Gallimard. Les éditeurs ont décidé de demander l'autorisation aux ayants droit, pratiquement sûr qu'ils accepteraient, et pas du tout. On a reçu une lettre d'avocat en nous disant qu'il était hors de question d'utiliser main d'œuvre. Donc en quelques jours, il a fallu de se retourner. Donc on a cogité avec Karina Hossine, l'éditrice de Gallimard, et Charlotte Van Essen, et on a trouvé À pied d'œuvre, qui est une vieille expression qui peut être prise. Alors, si on prend œuvre au masculin, je crois que c'est le travail littéraire, et si on prend œuvre au féminin, c'est le travail manuel. Donc on s'est dit, c'est parfait, voilà, on est en plein dans le sujet.
On peut dire aussi au pied du mur.
Oui,
ça vous oblige, il y a une sorte d'obligation à pied d'œuvre. Alors, sur votre livre, donc il n'est pas indiqué, ni roman, ni récit, il n'y a pas d'étiquette littéraire, pas indiqué de genre littéraire, Franck Courtès, et il y a cette photo, sur le bandeau, où on voit une vitre en train d'être lavée par un vitrier, et je me suis demandé si c'est pas un clin d'œil pour si votre récit n'est pas un peu le récit de la transparence d'un homme qui peu à peu devient transparent. dans une société qui le rend invisible qui l'invisibilise, puisqu'il perd il est photographe, donc c'est un peu autobiographique, il perd son emploi et il va faire des petits boulots pour survivre. Et voilà, est-ce que c'est pas un peu ce chemin d'une identité à une autre, une identité sociale bien précise, jusqu'à la transparence sociale?
Oui, il y a deux transparences, effectivement. Moi, là, le fait de tout dire, comme je le fais dans le livre, y compris le moindre détail de prix des choses, il y a une forme de transparence. Et puis effectivement, je glisse vers une transparence. Je m'en rends compte quand je vais chez des femmes en particulier, où je perds mon identité d'homme quasiment. Je deviens juste des bras. Mais sinon, on a mis ni roman ni récit. Parce qu'en fait, le livre est un peu hybride. Moi, si ça tenait qu'à moi, j'enlèverais sur tous les livres les cases comme ça qui les empêchent de concourir à des prix. Parce que, par exemple, le Goncourt n'accepte que le roman. D'autres, c'est... Moi, ça m'embête. Un livre, il est bon, il n'est pas bon, il plaît. Enfin, ouais, ces catégories m'ennuient un peu. Là, tout est vrai, à part l'anecdote des frelons. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les lecteurs ne peuvent pas savoir, mais il y a une anecdote que j'ai ajoutée, inventée. Donc je me suis permis quand même quelques petites libertés.
Oui.
Mais sinon, tout le reste est vrai. Mais c'est travaillé comme un roman. C'était un peu le travail littéraire. C'est pour ça qu'il est dans la collection blanche.
Blanche.
Voilà.
Et c'est vrai, Franck Courtès. Mais bon, en plus, actuellement, il y a des romans qui n'en sont pas. Et je trouve assez malhonnête, personnellement, qui est sur l'éthique. J'ai indiqué roman alors que ce sont des récits souvent autobiographiques, donc il faut mieux rien mettre. Ça,
oui,
c'est...
voilà, on met rien.
Voilà. Mais c'est un parcours de vie, on pourrait dire, Franck Courtès. Et donc votre narrateur, qui est vous-même, le narrateur de ce livre, père donc est photographe, perd un peu son, il a plus de commandes, il a plus rien, il passe par la case auteur, il devient auteur, hein, c'est votre cas d'ailleurs, et il découvre voilà le métier de d'écrivain, d'auteur qui est celui d'un intello précaire. Souvent vous écrivez, le métier d'écrivain consiste à entretenir un feu qui ne demande qu'à s'éteindre, un feu dans la neige, il faudrait prévenir, mettre un panneau, cela exige une grande volonté, achever un texte ne veut pas dire être publié, publier ne veut pas dire être lu, lu ne veut pas dire être aimé, aimer ne veut pas dire avoir du succès, avoir du succès n'augure aucune fortune. Donc c'est une sorte de, voilà, de jeu de domino, ouais, on va ça. Dire, ou l'effet de l'aile de papillon, si on peut dire, tac, 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 tac. Un peu comme les illusions perdues, finalement. Il y a un côté balzacien aussi dans votre livre.
Ah ben merci.
Non, mais il y a ce côté-là, il y a ce côté...
Je cours après un idéal, à ma passion, sans jamais vraiment pouvoir la rattraper, bien que grâce à ce livre, je suis en train quand même de vivre un rêve,
oui.
Parce que ça marche bien mieux que les autres, que les précédents.
Parce que vous êtes sincère, la sincérité en écriture est importante.
Ah oui, je pense que presque n'importe quelle histoire écrite sincèrement aura toujours plus d'intérêt qu'une histoire amusante et mensongère, enfin pas mensongère, pas inventée, mais malhonnête. Non, la sincérité, ça a été un travail de relecture, pour aller débusquer dans chaque coin de phrase une intention de d'émouvoir ou une intention de... Non, ça, j'ai été très, très rigoureux là-dessus. C'est enlever tout ce qui était faux, quoi. Et Dieu sait qu'on peut être sujet, quand on écrit, on a envie parfois de se camoufler, de se fabriquer un personnage plus sympathique qu'on l'est, des choses comme ça. Donc là, il fallait vraiment livrer la vérité absolue. Elle se suffit elle-même, en plus.
Est-ce que votre métier de photographe, où on retouche avec le numérique les photos, on les retouche, un photographe quand même est minutieux, enfin, avant tout ça, il se doit bien cadrer son histoire aussi, son histoire de l'image. Est-ce que ça vous a apporté? Aussi, vous avez publié des nouvelles. Est-ce que l'art de la nouvelle, par exemple, on peut rapprocher du métier du photographe? Puisque c'est votre métier d'origine, hein, ça compte quand même.
Dans mon métier d'origine, je ne retouchais pas. Moi, je travaillais en argentique avec des vieux appareils photo. Alors oui, il arrivait avec un petit pinceau très fin d'enlever une poussière, mais ça s'arrêtait là. Hein. C'était vraiment de la chasse à la poussière. Mais la retouche, comme on la connaît aujourd'hui avec le numérique, m'était totalement étrangère et de toute façon c'est pas du tout le même métier. Moi, ça m'intéresse pas. Moi, c'est le réel qui m'intéresse. C'est réussir à faire quelque chose de poétique, qui ait du sens. Le travail de la photographie m'a quand même énormément appris pour l'écriture, parce que j'écrivais avant d'être photographe quand j'étais plus jeune et j'étais pas bon. Je relis des textes que j'écris, c'est très mauvais, j'ai tous les écueils de l'adolescent prétentieux, c'est insupportable. Et la photographie m'a appris d'abord à me confronter au réel, d'être modeste, et de jouer avec le cadre, c'est-à-dire cerner ce qu'on veut faire, ce qu'on veut dire, être assez rigoureux, voilà, comme on peut l'être dans une phrase, où on élimine les adverbes, où on élimine toutes les digressions, etc. Et puis, jouer avec la lumière pour mettre en valeur une partie de l'image qui va donner tout le sens à l'image, c'est un peu le travail que je fais en littérature, où on me dit assez souvent qu'il y a un aspect très visuel dans cette littérature-là. Donc oui, la photo m'a clairement appris à écrire.
Et quel a été le déclic de ce livre à pied d'œuvre en Courtès? Est-ce pour dissiper des malentendus autour de l'écriture? Parce que vous parlez, il y a le faire savoir et il y a le savoir-faire.
Oui.
Et il est important, vous dites, les ventes tiennent moins au talent des auteurs qu'à celui de leur attaché de presse, moins à la qualité de l'œuvre qu'à l'ambition commerciale des éditeurs. Donc, il y a le rôle aussi des intermédiaires qui prennent le pas sur les créateurs. Donc, c'est un livre quand même qui est très utile, hein, pour le lecteur, pour voir ce qu'est l'état d'écrivain, au quotidien.
Oui.
Est-ce que c'était ça qui vous a mobilisé, motivé?
Pas seulement, mais c'est une grosse partie du livre, effectivement, de raconter, alors vis-à-vis, par exemple, de mes enfants, qui sont grands, qui habitent pas en France. J'avais envie, de toute façon, de leur laisser un texte pour qu'ils comprennent ce que fait leur père et que c'est pas un caprice, voilà, que c'est une passion dévorante, inconditionnelle. Et puis aussi pour les gens que je connais, moi j'habite à la campagne, je trouvais ça bien de, souvent on fantasme beaucoup sur les écrivains, on les imagine habitant Boulevard Saint-Germain. Ou... Enfin moi c'est un peu aussi ce que j'ai vu quand j'étais photographe, je photographiais beaucoup d'écrivains et j'allais dans des appartements magnifiques, etc. Mais en fait c'était que des gens qui avaient énormément de succès à l'époque. La vie de la classe moyenne, des prolétaires de l'écriture, c'est pas du tout ça. C'est une galère infinie financière, morale. Et j'ai oublié la question.
Ben, c'est pas grave. Est-ce que l'écrivain, par exemple... non, je parlais du rôle des intermédiaires qui, finalement...
Oui.
Y a un livre, il y a un manuscrit, il y a une écriture, mais ce livre, ce manuscrit, il est rien,
oui,
sans l'éditeur, sans l'attaché de presse, sans toute la chaîne du livre.
Oui. Alors, il n'est pas rien, mais il reste...
Il peut rester dans les tiroirs.
Dans les tiroirs, oui, confidentiel.
Et c'est quand même...
Ah, moi, c'est d'une tristesse quand on pense aux 500 livres de la rentrée littéraire, là, en septembre, alors qu'il y en a quoi ? Il y en a 30 qui ont été repérés. Hein. C'est une catastrophe. Enfin, c'est effrayant. Et, un gâchis, oui, mais bon, j'ai pas de solution. Les intermédiaires, pour les obtenir, c'est-à-dire pour avoir le bon éditeur, il faut... en fait, on est sans cesse en concours, parce qu'il faut... Il suffit pas d'être publié, il suffit pas d'être lu par des journalistes. Il faut déjà passer le comité de lecture d'une maison d'édition. Mmh. Donc, il y a sans cesse des sélections toujours très difficiles... dont on maîtrise rien, on sait pas ce qui leur plaît, on sait pas pourquoi ils nous choisissent. Ouais, non, c'est un long parcours avant.
Parcours du combattant, on peut
le
dire. Hein.
Oui, ouais, c'est... Ouais.
Est-ce qu'un écrivain est-il un peu une sorte d'ouvrier du silence ? À un moment donné, vous dites, tout commence par un silence à bâtir. J'ai bien aimé cette phrase, Franck Courtès. Et puis aussi, vous parlez un peu, c'est l'art ou la vie, l'écriture ou la vie. À un moment donné, ça se passe comme ça. Vous dites, la littérature confisque chaque matinée la moitié de ma vie. Je sors étourdi à midi. On irait bien se recoucher après un tel travail. L'impression que l'on a du monde à ce moment, c'est de s'en être un instant échappé.
Mmh. Oui,
échappé,
oui.
Mais après, il faut se reconnecter. C'est là. C'est le livre de la reconnexion aussi, hein, on pourrait dire.
Oui, aussi. Non, oui, c'est vrai que le travail, enfin, alors, peut-être pas pour tout le monde, chacun nos techniques, nos techniques, nos façons de travailler, ce n'est pas des techniques. Mais d'abord, moi, oui, j'ai besoin d'un lieu de silence, mais c'est un silence aussi, c'est-à-dire je dois pas avoir des petites voix dans ma tête qui me disent « t'as pas fait le ménage, tu dois faire ta déclaration à l'URSSAF ». Tout doit être réglé, on doit se débarrasser au maximum de tout ce qui vient polluer le cerveau pour lui laisser libre champ. Et en fait, on entre dans une espèce d'auto-hypnose. Je m'en étais pas rendu compte au début, mais on me l'a fait remarquer. Quand je sors d'une séance d'écriture, je sais plus quelle heure il est. Parce que si j'ai écrit une scène qui se passe le soir dans une voiture, alors que je suis assis à ma chaise et qu'on est le matin, s'il pleut dans mon livre et qu'en fait j'ouvre la fenêtre, il fait beau, il y a un moment, on est complètement déboussolé, comme au sortir d'un rêve. Mais je pense que c'est vraiment une hypnose.
Une immersion en soi-même, en son univers. C'est important, l'univers.
Oui.
Vous avez un univers romanesque. Il y a des personnages dans
ce
livre.
Oui, moi j'aime beaucoup les personnages, oui. Les dialogues, etc. Mais alors, c'est pas qu'une immersion dans soi-même. Il y a une partie, bien sûr, mais une partie où on parle, on s'adresse à des gens et on parle de son point de vue. Mais j'entre aussi dans la peau des personnages. Et enfin, tous les écrivains le font. Hein. C'est pas exceptionnel, mais entrer dans la psychologie de quelqu'un, se mettre à sa place, essayer de réfléchir comme lui, ça nécessite une concentration énorme. Et auparavant, aussi une observation. C'est-à-dire, il faut beaucoup d'écoute, beaucoup d'observation, avant de pouvoir écrire quelque chose qui tienne la route quand même.
Et vous montrez d'ailleurs que c'est une sorte aussi, là, aussi de plusieurs métamorphoses. Votre narrateur échappe finalement à un parcours social tout tracé. Vous écrivez « Depuis l'enfance, il passe avec satisfaction dans la classe supérieure, l'œil rivé sur leur viseur social, mariage, épargne, retraite, le tiercé gagnant. Moi qui ne prenais plaisir depuis tout petit qu'à écrire des histoires. » Voilà, vous vous sentez différent de tout, déjà d'emblée. Il y a une sorte de pression sociale. Est-ce que l'écrivain est par nature asocial, antisocial ?
Non, il est libre.
Il est libre.
Je pense qu'il a un désir de liberté, ouais. Tout simplement. C'est vrai que depuis tout petit, je souffre de ne pas forcément prendre plaisir à rentrer dans les projections que nos parents ont de nous, les amis. Moi, à l'école, j'avais beaucoup de mal. C'est une obsession pour la liberté, en fait. Mais quand on comprend qu'on peut l'obtenir si on est prêt à payer un prix très, très élevé, c'est-à-dire si on est prêt à renoncer à certains conforts, c'est une liberté qu'on peut acquérir. Voilà. Ça coûte cher, mais on peut se l'offrir, quoi.
La rançon de la gloire. Elle est chère. Mais pas toujours de la gloire. On parle, voilà, votre narrateur, c'est vrai, il est devenu pauvre, comme précaire, suite aux étapes de la vie. Et finalement, il décide de faire des petits boulots manuels. Et je dirais presque, c'est quand même une chance pour lui, malgré tout, parce que ça le reconnecte avec la réalité.
Mais complètement.
Et avec la vie aussi, une autre forme de vie. Vous dites, il m'apparaît que devenir pauvre ne consiste pas. Alors après, il faut apprendre à devenir pauvre, c'est pas simple. Il m'apparaît que devenir pauvre ne consiste pas à vivre plus simplement. Au contraire, la pauvreté complique singulièrement ma vie. Celle-ci se voit soumise à 1000 économies, 1000 mesquineries. Il y a un autre apprentissage qui se fait où il doit revenir à l'essentiel, à l'essence.
Oui. Je pense que toutes les personnes qui ont des difficultés financières savent de quoi je parle. C'est pas du tout plus simple.
Pas du tout plus simple, mais c'est important aussi que vous l'écriviez, parce que finalement, on en parle sans en parler.
Oui, oui, parce que moi, j'avais aucun problème d'argent. Donc, j'étais photographe très jeune, à 24 ans. Ça a marché tout de suite. Donc, j'ai eu une vie confortable où la notion même de l'argent était assez abstraite. L'argent arrivait sur mon compte en banque sans que je m'en rende compte. Je vérifiais pas si on m'avait payé ou pas, ou très peu. Et je dépensais l'argent dont j'avais besoin. Et tout à coup, quand je décide d'écrire, pour moi, la question de l'argent ne s'est pas posée. Parce qu'il s'agissait de sauver quelque chose en moi qui était en train de mourir, qui était la flamme artistique, en fait. Puisque dans le métier de photographe, je trouvais de moins en moins de plaisir. Enfin, même plus du tout. Et il était temps d'arrêter. Et je me mets à écrire pour de vrai. Et de nouveau, ça marche tout de suite, sauf pas du tout financièrement. Mais très vite, je suis édité l'année d'après, quoi. Là, je retrouve cette flamme artistique. Donc et depuis, je suis extrêmement heureux. J'ai retrouvé ce que j'aurais jamais dû pervertir en travaillant comme photographe à la commande et en faisant tout et n'importe quoi. Là, c'est vrai que bon, c'est difficile, mais j'ai une vie dure mais heureuse. Mais l'entrée dans la pauvreté, elle s'est faite assez brutalement, parce qu'une fois que les économies épuisées, je me suis rendu compte que les droits d'auteur, ça représentait à peu près 200 euros par mois. Et qu'avec ça, on ne fait rien, on peut rien faire. Je ne savais pas qu'on pouvait demander des aides, donc je n'ai rien demandé. Je pensais que ça ne pouvait pas être attribué à des gens qui venaient comme moi de la moyenne bourgeoisie. Enfin, je pensais que c'était vraiment fait pour des gens qui avaient des gros problèmes sociaux, beaucoup plus anciens. Enfin, bon. Et donc, je me retrouve à devoir vivre. Alors, je perds 13 kilos parce que je ne peux plus manger comme avant. Et, enfin, c'est-à-dire que je n'ose plus rien dépenser. Donc, je mange beaucoup moins. Je m'affaiblis. Et là, je me dis qu'il faut que je trouve un travail. Mais j'avais 50 ans, un peu moins, mais impossible de retrouver quoi que ce soit. Je demande à des amis dans leur société, des gens. Non, il n'y a pas de travail pour quelqu'un qui n'a aucune qualification. Et qui est à mon âge en plus. Mais bon, en France, c'est comme ça en tout cas. Parce que je sais qu'au Canada, on trouve plus facilement du travail quand on est plus âgé. Et puis là, On me dit, écoute, il y a des formules, des plateformes internet qui mettent en relation des clients qui ont besoin de prestations avec des hommes prêts à tout faire. Et alors, en théorie, c'est pour mettre du beurre dans les épinards des étudiants ou des retraités qui pour les occuper. En vérité, c'est une révolution du travail, quoi. Ouais. C'est une mise aux enchères de gens sans papiers, qui ont fait des burn-out, des intellectuels précaires qui ont besoin de gagner 20 euros. Et on se déprécie tous, tous les prestataires, pour obtenir le travail. On baisse notre salaire, comme des enchères à l'envers, jusqu'à faire des travaux pour quelques euros, alors que ça devrait payer 300 ou 400 euros. Et là, on fait des trucs pour 15 euros, 10 euros. Une sauvagerie, quoi, de légale.
C'est une sorte d'esclavage moderne, hein, c'est ce que vous montrez aussi. Hein,
alors, je le montre, mais je ne le dis pas. J'évite le mot esclavage, ouais.
Mais il y a...
Bien sûr.
Sous couvert de liberté. On va faire une pause musicale et nous revenons vers votre livre, Franck Courtès.
Alors, Pic Martini sympathique, je ne veux pas travailler, je ne veux pas travailler.
Chambre à la forme d'une cage, le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier. Et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour, un million de roses n'embaumerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier. Et puis je fume. Je ne suis pas fière de sa vie qui veut me tuer. C'est magnifique être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier, et puis je fume.
Radio Libertin 89.4, et puis je fume. Et nous parlons vous écoutez Bibliomanie, et nous parlons d'un livre, bien évidemment, À pied d'œuvre de Franck Courtès. Ça vient de paraître chez Gallimard. Et nous parlons de cette société qui ne tourne pas toujours très rond, et surtout de la confusion. On parlait de cette sorte d'organisation de la société. Votre narrateur, Franck Courtès, est obligé de se vendre. Autrefois, on parlait de journalier. Mmh. On louait sa force de travail au jour le jour. Et vous écrivez, le piège est drôlement bien pensé. On a affaire à un savant mélange de liberté et de privation de celle-ci. La disponibilité à toute heure conditionne la possibilité d'en vivre. Qui s'inquiète de cette disponibilité, de ces prix imbattables ? Donc c'est poser des questions comme ça. Votre livre, c'est pas... Mais il y a des questions qui jalonnent un peu ce... C'est un cheminement d'une vie, un parcours de vie où, toc, votre narrateur... Et justement, pour revenir à cette fameuse... ce fameux bandeau de couverture, le laveur de carreaux est un spécialiste dans l'ordre du ménage, comme l'ophtalmo l'est en médecine, c'est-à-dire tous ces petits boulots qu'on ne voit pas. Mmh. Au moment du Covid, on a parlé des commerces essentiels, non essentiels. On est là-dedans, hein, dans
mais
cette
oui,
notion d'essentiel et de non essentiel.
Oui, oui. La littérature est une activité artistique non essentielle aux yeux de beaucoup de monde, quoi. C'est, d'abord, on l'a vu dans cette gaffe de je ne sais plus quel ministre ou...
Je sais plus, j'ai déjà oublié.
Je sais plus, ouais, c'est fou, quoi.
Mais. Il se dit tellement de choses à la télé, n'importe quoi.
Mais les ravages bon, après, ils ont rattrapé puisqu'ils ont ouvert les librairies, mais les ravages que ça fait dans les familles où il peut y avoir une jeune fille ou un jeune homme qui a une fibre artistique et ça retend les rapports avec les parents qui cette phrase fait des ravages dans la tête des gens. Voilà, c'est, mon fils ne fera pas un métier non essentiel, alors que moi, il me semble que l'art, de toute façon, pour l'humanité, est essentiel, au même titre que la médecine. C'est l'art soigne. Imaginez une société sans art, sans artistes, c'est insupportable, quoi.
C'est une respiration.
Oui.
C'est un souffle, oui, l'art, ça vous permet, le rêve aussi est très important.
Et puis, de toute façon, on le fabrique, l'imaginaire... dans toutes les sociétés existe, c'est pas quelque chose d'occidental, et l'imaginaire, l'art existe dans toutes les sociétés, mais c'est fou, parce qu'on me dit souvent en interview on me l'a dit plusieurs fois, mais vous n'êtes pas un peu fou d'avoir fait ça, ce choix radical d'écrire au point de s'appauvrir, comme si le fait de s'appauvrir était quelque chose qui empêchait de faire les choses. On dit, je sais pas, l'hôpital va très mal, par exemple. Il y a des infirmières qui sont à la limite du burn-out, qui gagnent très mal leur vie. On leur dit jamais, mais t'es pas folle de faire ça, mais laisse tomber les gens, elles savent très bien que leur métier est humainement essentiel. Et je pense que l'art l'est aussi. Alors évidemment, après, au bout de deux ou trois livres, on voit qu'on a zéro vente et qu'on n'intéresse personne, bon, faut peut-être se remettre en question, mais dans la mesure où un auteur publié pour qui il y a un certain succès d'estime, etc. On ne peut pas arrêter. On sent qu'on est à sa place, quoi. L'anomalie, c'est que, en fait, les ventes se sont écroulées parce que il y a une baisse de la lecture et que nous, on touche toujours les auteurs entre 8 et 10% du prix du livre. Donc là, par exemple, sur celui-ci, c'est 1,80€ par livre. Alors, il y a 30 ans, Quand les éditeurs réussissaient à vendre 20 000 exemplaires d'un livre qui est passé par les médias, qui a fait tout ce que j'ai fait. Mais quand aujourd'hui, on sait que ça vend plus que 2 000, ce qui n'est pas mon cas, mais ce qui a été longtemps mon cas avant, les 10% qu'on nous octroie sont infamants. Enfin, c'est juste... personne n'a pensé qu'on ne pouvait pas continuer comme ça et qu'on allait vers une littérature... soit de gens qui ont un deuxième métier, des professeurs, des journalistes, qui ont des métiers intellectuels qui leur laissent du temps, soit des gens entretenus par leurs conjoints, joints et jointes. Est-ce que c'est cette littérature-là qu'on veut, en fait ? Je crois qu'il y a quand même un gros problème de rémunération, oui, c'est vrai.
Il y a un gros problème que vous soulignez, c'est le problème de la vocation, de l'engagement. Mmh. Parce que plus votre narrateur s'appauvrit, plus il s'enrichit aussi intérieurement. Donc il y a une sorte de paradoxe. Et puis sur cette notion de vrai travail, la vision qu'on a du travail. Je ne tiens pas à lui confier que j'écris, parce qu'au fond, le travail immobile, qui ne se voit pas, s'en fait sourire beaucoup. Le travail dans la tête, les pieds dans les chaussons, ce n'est pas du vrai travail. Mmh. C'est vrai que c'est une phrase que j'ai toujours... souvent entendu, aux heures de vie perdues entre ces quatre murs, répond le temps gagné sur la mélancolie. Écrivez-vous encore, celle qui tombe sur la tête des pauvres gens, comme on dit, dès qu'ils mettent la clé sous la porte, je rentre chez eux. Mais c'est vrai que, il y a le travail rentable, présumé rentable, alors que finalement on gagne peu, et puis le travail qui est invisible, le travail de création, le travail de recherche, puisque l'écriture c'est une recherche.
Oui. Et c'est une rumination incessante aussi, le travail intellectuel. On passe, il n'y a plus de week-end, plus de vacances. On se couche avec un sentiment d'inachevé. Il n'y a pas de plafond. On sait qu'on peut toujours faire mieux. Donc on est hanté par le désir de mieux faire. C'est vrai que dans le travail manuel, y a un début, une fin. Et après la fin, le repos. Moi, j'ai découvert le repos physique du travailleur manuel, qui est un moment extraordinaire quand on n'en a jamais eu, quand on a toujours travaillé comme moi dans des métiers non fatigants, on va dire, physiquement. Ce repos, ce temps de vacances qui s'ensuit, m'a fait comprendre, mis en relief, des plaisirs que j'avais jamais eu auparavant. Et puis il y a un respect. C'est absurde, mais quand je passe une matinée de travail sur un texte, on n'a pas du tout autour de moi la même pitié ou la même considération que quand je rentre d'un chantier où j'ai évacué des gravats toute la matinée. C'est comme si, en fait, le travail, il fallait qu'on souffre et que ça se voit qu'on a souffert, quoi. Or, le travail, c'est... c'est une chance de faire les deux. En faisant les deux, c'est que il y a deux sens au mot travail. Il y a le travail comme une contrainte et le travail comme, au contraire, je crois qu'étymologiquement, le travel anglais, un voyage. Donc il y a quelque chose qui émancipe et qui épanouit, ce qui est la littérature, et puis le travail matériel qui contraint et qui en même temps permet de manger, donc d'écrire. Tout se tient et ça a été des périodes difficiles, mais assez heureuses et instructives.
Alors vous parlez du plaisir des travaux manuels comme une joie retrouvée de l'enfance. Ouais. Il y a du plaisir de pouvoir se salir légitimement, un plaisir approchant celui qu'ont les enfants à sauter dans les flaques de boue. Il y a ce plaisir de... Parce que comme vous dites d'ailleurs, on parlait du corps, le corps qui écrit, le corps qui fait un travail manuel. C'est la première fois avec la littérature que je travaille en position assise. Pour autant, je ne me sens pas contraint. Je ne me sens pas non plus condamné à mes petits travaux de force. Ils me permettent d'écrire sans dépendre d'une société ou d'une entreprise. Donc dans un cas comme dans l'autre, Franck Courtès, je dirais que le travailleur manuel que votre narrateur devient et le travailleur intellectuel qu'il est, tous les deux sont invisibles.
Oui,
finalement.
C'est vrai.
Les deux. Alors, il faut dire que le travailleur manuel que votre narrateur est en train de devenir et qu'il devient pour survivre, il a même pas de prénom. Enfin, les gens vous montrent progressivement son effacement.
Oui, absolument.
On le réduit à un prénom.
Et c'est organisé.
Oui, on ne le voit même pas quand il arrive, puisque quand vous arrivez chez des gens, généralement, c'est pas rangé, par exemple.
L'usage des prénoms sur ces plateformes numériques. Alors, moi, je travaillais pour une plateforme qui n'est pas. C'est pas les grandes plateformes, c'est pas Uber, on va le dire clairement. Uber, c'est un peu la Rolls par rapport au... c'était vraiment des gens beaucoup plus cyniques et sans scrupules. Mais on est invisibilisé aussi par l'usage des prénoms, c'est-à-dire qu'on refuse ce nouveau patronat refuse d'abord de donner son nom de famille, leur nom de famille. On a affaire à Cadet, Vera, Théo, des gens comme ça qui n'existent en vérité probablement même pas. Et nous, on nous appelle par nos prénoms. On peut pas donner nos patronymes aux clients chez qui on va. Et tout ça pour peut-être déchargé d'une forme d'humanisme. Ouais, ça me fait penser aux maisons closes où les prostituées n'étaient appelées que par leur prénom, pour pas alourdir l'imaginaire des clients de considérations humanistes, sociales, parce que évidemment, si une fille s'appelle Léa Esposito, tout de suite, on peut se dire, ah, vous êtes espagnole, d'où vous venez? Ah, ma mère est espagnole.
Voilà,
c'est terrible, ça, ça annule le côté exploitation charnelle, pure, assez terrifiante du désir sexuel. Et là, dans le travail, ils ont repris les mêmes codes que les bordels, en fait. C'est-à-dire que nous, on est les nouvelles prostituées du travail. Il ne faut absolument pas qu'on sache qui on est, d'où on vient, qui n'ait aucune considération humaine.
Qui n'ait pas d'histoire.
Qui n'ait pas d'histoire. On est des bras, on est à leur service, on est au service des gens.
Vous écrivez, avec l'explosion des statuts de travailleurs indépendants, on se dirige moins vers une société idéale d'ouvriers libres et indépendants que vers une société de serviteurs précarisés. Personne n'est plus à l'abri d'un revers de fortune, d'un licenciement, d'un burn-out, d'un échec. Donc ceux qui passent par la case échec risquent de tomber dans ce système. Pour vivre, tout simplement.
Oui, oui, pour survivre. Oui.
Une sorte de mécanisme, d'ailleurs, infernal. C'est un cycle infernal.
Oui.
Et mais en même temps, vous montrez aussi, Franck Courtès, la difficulté aussi de vivre de son écriture jusqu'au bout. Par exemple, vous parlez des ateliers d'écriture, nous en parlions en antenne. Parce que votre narrateur, avant d'en devenir un travailleur manuel, si on peut dire, dit, les ateliers d'écriture, c'est pas trop pour lui, c'est pas non plus son truc. On lui demande de faire... La semaine qui suit l'atelier, écœuré, comme au sortir d'une autopsie, je ne peux plus reprendre mon propre travail. De toute façon, ces ateliers ne peuvent être une source régulière de revenus. Donc c'est ponctuel, on vous propose des... Donc vous voyez bien que le statut d'auteur aussi, ça ne va pas. Donc,
non, bien sûr. Oui.
C'est une impasse.
J'espère pas.
C'est une impasse. Il faut trouver son propre...
C'est une souricière, quoi.
Non, mais il y a cette possibilité-là, mais qui est aussi épuisante dans un autre sens que
bien sûr.
Que l'autre. C'est ça que je veux dire.
Oui, oui, je préfère faire des petits travaux qui n'ont absolument rien à voir avec mon activité littéraire que adosser ma littérature à tout un système d'aide, de bourse. Bon, alors, je vais le faire quand même parce que c'est très... Voilà, on me l'a proposé, donc je vais le faire. Et je vais pas cracher dans la soupe non plus. Mais disons que intimement, le plaisir est pas le même. Je préfère avoir cette liberté. Alors, c'est une fausse liberté, des petits boulots, parce que quand on commence à mettre le doigt dans l'engrenage, on est appelé jour et nuit. Enfin, non, pas nuit, j'exagère, mais enfin, on est appelé de 7h du matin à 23h, les week-ends et les vacances. Et puis, il faut toujours en faire plus pour être repéré par l'algorithme. Donc, c'est pas vraiment une liberté. Mais tout de même, ça reste des petites missions qui durent de 1 heure à une journée.
Ça prend pas toute votre vie.
Voilà. Ça reste marginal. J'arrive à garder une distance par rapport à ce que ça pourrait, à la définition que ça pourrait donner de moi socialement. Je garde cette distance grâce à la littérature. Mais j'avais aussi envie d'écrire le livre pour les gens que j'ai croisés et qui n'ont pas toujours la chance.
Ouais.
D'avoir une passion, qui est en plus une passion qui maintenant, moi, marche. Donc, les gens, et en particulier les jeunes gens qui se lancent là-dedans parce qu'ils n'ont soit pas de papier, soit pas d'études, et qui ne cotisent pas pour leur avenir, n'ont qu'une pérennité possible. Quand ils se blessent, les employeurs, moi, c'est arrivé, un type qui s'était blessé, je ne l'ai pas dit dans le livre ça, mais c'est vrai. Il a été blessé par un faux plafond et on l'a renvoyé chez lui. Hein. On ne te connaît pas, évidemment. C'était du travail au noir. Donc c'est un peu... c'est vraiment une description d'un monde cruel. Et moi, c'est vraiment une peur que j'ai. C'est qu'on nous présente une forme de liberté du travail. Et sous prétexte qu'on n'exploite plus vraiment le travailleur, là, les patrons qui tiennent
c'est anonyme, en fait.
Oui, c'est vrai qu'ils n'exploitent pas réellement notre travail. C'est des commissions assez dérisoires de 10%. En revanche, ils exploitent l'accès au travail. Mmh. Ils savent qu'on est 10 millions de pauvres en France, que c'est une manne de gens qui est disponible. Et leur premier réflexe, au lieu de participer, je ne sais pas, à un effort peut-être collectif pour les aider, je ne sais pas. Il y a des gens qui font ça, hein, qui aident les pauvres. eux se disent « Ah, il y a peut-être un peu d'argent à se faire, là. Il y a peut-être un peu de bénéfice à faire sur ces... » Moi, je nous appelle des déchets du monde du travail. Hein. C'est-à-dire qu'on est... On n'est pas des... Je m'étais un petit peu mis en porte-à-faux dans une émission. On n'est pas des exclus de la société du tout. On fait partie de la société. On est des exclus du monde du travail.
Oui,
c'est pas la même chose.
C'est pas la même chose, mais je parlerais de naufrage plutôt.
Oui.
Naufrage, aussi. Parce qu'il y a une sorte de dérive progressive, de dérive aussi du regard des autres.
Oui.
Parce qu'en fait, tout le monde est responsable dans cette histoire. Oui. Vous dites, je suis celui qu'on appelle, non parce qu'on ne sait pas faire quelque chose de difficile, mais parce qu'on ne veut pas le faire. On va faire une petite pause musicale, Franck Courtès, et puis nous reprenons notre conversation.
Alors, je ne peux pas, je ne veux pas. Eh bien, maintenant, après Pink Martini, je ne veux pas travailler. Là, c'est Boris Vian, Henri Salvador. Je ne peux pas travailler.
Aïe, 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 quelle bonne femme, je t'ai épousé, là. Enfin, attention, la voilà qui arrive, la voilà qui arrive. Oups, là. Tu m'engueules sans arrêter parce qu'on n'a pas d'argent. Et qu'on ne peut rien acheter pour nourrir tes parents. Mais je peux pas travailler debout parce que ça me fait mal aux genoux. Je peux pas travailler assis, ça me fait mal au coccyx. Ah, je suis très mal foutu, mon vieux. Aïe, 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 aïe. Oh, ça va pas du tout. Aujourd'hui, le directeur des galeries Lafleur m'a offert une situation de garçon d'ascenseur. Mais je peux pas descendre et monter, j'ai le foie qui va se décrocher. Je peux pas travailler en boîte, j'ai les poumons comme de l'ouate. Ouf, j'étouffe mon vieux, j'étouffe. Oui, aïe, aïe, aïe. La voisine m'a proposé de laver ses carreaux et elle m'a apporté un énorme escabeau. Mais je peux pas travailler en l'air, j'ai le vertige, je peux me foutre par terre. Je pourrais travailler couché, mais personne veut m'embaucher. Ils ont bien raison, je suis trop mal foutu. Enfin, je continue. Onésime qui tient l'orchestre au dancing du carrefour m'a demandé d'entrer chez lui pour jouer du tambour. Mais je peux pas travailler dans le bruit, ça me donne des tas de maladies. Je peux pas travailler des bras, j'ai l'épaule qui ne tourne pas. Aïe, 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 aïe. Je pourrais même pas faire une mayonnaise, alors tu penses jouer du tambour. Enfin, je continue. Monsieur Jean, le commerçant qui a des plantations, me dit Jules, viens donc chez nous, faut cueillir le coton. Mais je peux pas travailler penché, ma colonne veut pas se plier. Je peux pas travailler courbé, j'ai les doigts de pied recourbés. À propos, on peut pas dire que tu as trouvé chaussure à ton pied, toi. Enfin, je continue. La Julie, ma belle copine qui bosse à l'extérieur, me suggère de m'occuper de son petit intérieur. Chouette, je vais pouvoir travailler couché. J'ai fini par me faire embaucher, mais je vois pas pourquoi t'es fâché. Tes parents pourront bouffer. Alors toi, alors qu'est-ce que c'est que cette bonne femme là, mon vieux? Ah, oh, une vraie calamité. Enfin, j'étais la vieille consul, célibataire. Je rigolais avec mes copains.
Radio Libertaire 89.4, vous écoutez l'émission Bibliomanie, aujourd'hui en présence de Franck Courtès, qui vous dit tout d'à pied d'œuvre. C'est son sixième livre, c'est ça, sixième livre qui va paraître aux éditions Gallimard. Franck Courtès, c'est vrai, ben on ne peut pas travailler des fois, hein, c'est difficile, on ne veut pas, mais quand on ne peut pas, on ne peut pas. Et vous décrivez, bon, c'est un peu en filigrane, j'allais dire qu'il y a... On peut utiliser la métaphore de la photographie aussi. Il y a des zooms, il y a des arrière-plans, il y a des plein champs, enfin bref. Et vous dites, vous écrivez, on aime ceux qui se battent, s'opposent, pas ceux qui s'éloignent sans un mot. Je me suis effacée comme on laisse une photo non fixée se gâter à la lumière. Se retirer progressivement, on n'aime pas les perdants. Et on est dans une société où c'est je consomme, voilà, vous écrivez aussi, vous pouvez bien être philosophe, rêveur, heureux, en amour, économe, toujours on vous fait miroiter un voyage en avion, un vêtement à la mode, un spectacle à aller voir. Dans un tel monde si soucieux de bien-être absolu, la pauvreté fait presque figure de maladie. Quelque chose ne tourne pas rond chez un pauvre. Pas si simple d'être pauvre.
Oui, non.
Pas simple et vous le montrez bien. Enfin, là, je trouve, je parlais hors antenne d'un livre qui est paru autrefois de Claire Etcherelli. Je ne sais plus le titre. Élise ou la vraie vie, voilà. Et c'est vrai qu'elle montrait le travail d'un manœuvre en usine, ce que c'est. Et là, c'est le manœuvre dans les plateformes anonymes. Ça peut être livreur, ça peut être... C'est l'homme à tout faire.
C'est ça. Ça, y a pas de limite aux demandes. C'est n'importe quoi. Ça va de des centres des gravats, parce que ça coûte beaucoup moins cher de prendre trois gars à 35€ la journée. Ça va de ça à laver les carreaux, à promener le chien. En fait, c'est
sans limite.
Oui, oui, oui.
Et vous écrivez aussi, il y a cette expression, vous savez qu'on nous... Il y a des expressions comme ça, faire avec. Et vous écrivez, c'est quand il faut faire avec, c'est-à-dire sans, qu'on se voit bien soi-même jusqu'au fond, jusqu'à la vase. Pauvre, on ne choisit plus les événements, on ne dirige plus tout à fait sa vie, le volant est raide, on fait les courses au même endroit, le moins cher, on s'habille de la même manière, on raconte les mêmes histoires, c'est-à-dire pas grand-chose. La pauvreté est aussi une monotonie.
Oui. Oui, c'est peut-être même ce qui...
C'est ce qu'il y a de pire, finalement.
Le plus dur, oui. Ouais. Oui, oui. C'est un monde, de toute façon, qui n'est pas fait pour les gens libres, de toute façon. Moi, je sais que dans ce monde tel que, auquel j'ai pourtant collaboré pendant 26 ans, avant de me rendre compte que je ne voulais plus, dans un monde comme ça, j'aurais pas pu être... je ne pouvais pas continuer d'être plus riche, je ne peux pas être plus heureux. Il fallait que je me sauve en choisissant absolument ce qu'on appelle une radicalité. Moi, je ne vois pas du tout ça comme une radicalité.
C'est un accomplissement.
Oui, c'est complètement dans une logique d'être heureux et de rendre heureux les gens que j'aime. Je ne peux pas mentir et faire semblant.
Et c'est vrai, vous dites d'ailleurs, il y a des petits détails comme ça, parce que c'est un peu l'emballage de la cette notion d'emballage du travail, de l'acte, enfin, de la société, de la sociabilité, tout ça. Et mais vous remarquez des petits détails. Vous dites par exemple, le pâté des riches se découvre dans le pape. Papier du charcutier plié comme des cadeaux d'anniversaire, ceux des pauvres suent sous le plastique. Oui. Mais il y a les petits dés, c'est infime.
Oui, mais c'est pour avoir connu les deux, ouais, voilà. je l'ai
infime.
Remarqué.
C'est des choses comme ça, du quotidien.
Oui.
C'est une sorte d'ethnologie du quotidien. Ouais. Qui... Est-ce que vous avez des... Il y a des livres qui vous ont inspiré. Quels sont les auteurs que vous aimez, par exemple, Franck Cortès?
Alors, en littérature.
En littérature, et puis après, on...
Voilà. Alors, en littérature, je suis un grand passionné de Raymond Carver, d'Emmanuel Bauve et de René Goscinny.
Ouais, Emmanuel Bauve, on retrouve bien l'art du peu, Arte Povera.
Oui, voilà. Moi, c'est ma trilogie parfaite. Je me situe comme ça, entre une façon d'écrire parfois un peu américaine, très, je trouve, hein, rentre-dedans, une précision psychologique et à la Bauve, et puis de l'autodérision, parce que j'y tenais beaucoup pour ce livre qui est quand même c'est un sujet un peu dur, donc
oui,
il fallait absolument, pour moi en tout cas, que ça soit drôle en réalité, que je me moque de moi, de mon personnage, quoi.
Est-ce qu'on retrouve par exemple dans le titre du premier chapitre, en tout cas ne viens pas te plaindre? Ça pourrait être dans un polar aussi, ça, ce
oui.
genre d'attaque de chapitre, Franck Cortès.
Oui, alors ça, c'est une astuce que j'ai trouvée, alors pas dans un livre, parce que je ne crois pas que ça ait été utilisé, peut-être, mais j'en sais rien, mais dans un vieux film des années 70, toutes les scènes étaient Il y avait une incrustation, un extrait du dialogue qui allait venir. Je trouvais le procédé génial et j'ai essayé en me disant non, c'est trop rigolo, enfin pas très sérieux. Et Gallimard, ils vont me dire quelque chose là-dessus. Et non, pas du tout. Tout le monde a trouvé ça drôle et bien. En fait.
Une sorte d'interpellation à vous-même et au lecteur qui peut aussi être dans votre situation. La première phrase, pour le dire en deux mots, j'ai cessé mon activité de photographe pour devenir écrivain. Rester écrivain a été une autre histoire. Est-ce important la première phrase ?
Ah, c'est capital. C'est capital et c'est probablement le plus grand plaisir de l'écrivain, c'est cette accroche, quoi. En fait, là, le premier jeu du livre, bon, je vais rentrer un peu dans le détail de la fabrication.
On est là pour ça aussi.
Comme un cuisinier qui raconte combien de sel il met. Mais il n'était pas construit exactement comme ça. Il commençait par un chantier. Et ensuite, après cette scène un peu dure de chantier, un peu cinématographique, j'expliquais au lecteur d'où je venais. Donc, j'avais été photographe, j'ai arrêté, je suis devenu écrivain et voilà, je suis dans la misère. Et on m'a dit, on m'a conseillé, une amie qui me relie et en qui j'ai une grande confiance m'a dit, pourquoi tu le fais pas linéairement? Commence par expliquer qui tu es, parce que sinon, toute cette scène du chantier, on s'en fiche un peu, tu pourrais être un vrai ouvrier, parce que le comique du livre, c'est que précisément, c'est un bourgeois qui se retrouve obligé de faire l'ouvrier.
C'est un contre-emploi.
C'est un contre-emploi, et c'est ça qui est un peu drôle. Mais, donc je commence, et là je me dis, bon, oui, mais du coup, la première phrase, je ne l'ai pas, et puis je me dis, puis je vais embêter les gens à raconter que j'ai été photographe. Et donc voilà, j'ai trouvé ce truc, c'est... Un peu comme quand on est, je sais pas, au bistrot ou au restaurant
une
avec quelqu'un.
Une brève de comptoir.
Ouais, qu'on veut pas embêter longtemps. Bon, pour le dire en deux mots, et ça accroche l'oreille tout de suite. Et
bien
du coup,
sûr.
Après, je peux dérouler le truc, enfin l'histoire, et on accroche les gens. La première phrase, c'est une grande jouissance. Quand on la trouve, c'est merveilleux.
Parce que c'est aussi, au départ, votre narrateur, il sait pas comment s'y prendre.
Non.
Il n'est pas forcément doué de ses mains.
Ah,
ben
il n'est pas bricoleur du tout, si c'est de moi dont vous voulez parler.
Bah, oui, non, mais pas du tout. Alors, il ne sait pas comment faire, il ne veut pas paraître en même temps, donc ça frôle le comique parfois.
Ah oui, ben le complexe de l'imposteur, j'ai bien connu, hein, habillé en bleu de travail et avec mon perforateur tout neuf, avec les élastiques, sur un chantier avec d'autres ouvriers plus aguerris. Et là, il y a un moment de solitude quand on commence à pas savoir mettre le forêt dans le perforateur et que voilà, on se rend compte, enfin voilà, que les gens commencent à se rendre compte que vous êtes un imposteur, quoi.
À un moment donné, je crois que vous ramassez des feuilles mortes ou je ne sais plus. Enfin, aussi des scènes de jardinage. En
fait,
oui. Oh là là.
Ça, c'était le premier jardin.
Oui.
Parce qu'il faut... Bon, alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut accepter tous les petits boulots pour que l'algorithme vous repère et vous donne les meilleures missions, c'est-à-dire les moins fatigantes, les mieux payées. Donc, au début, on prend tout ce qui passe. Donc, là, on était 6 en concurrence pour un jardin. Alors, il y avait quelqu'un qui avait demandé 150 euros, un autre, je ne sais plus. Et puis, à la fin, j'ai emporté la mise en demandant 18 euros. Ouais.
Voilà.
Donc, je me suis retrouvé en banlieue à devoir désherber et tondre la pelouse d'un jardin. Sauf que je n'avais pas de tondeuse, je n'avais rien. J'avais une serpe. Une serpe que j'avais achetée dans une brocante. Et donc, la femme me voit arriver, elle me dit, mais c'est tout ce que vous avez. Je dis, oui, vous inquiétez pas. Et je commence à tondre la pelouse à quatre pattes, comme ça, avec la serpe, en tirant sur les tiges. Elle me dit, mais pourquoi vous faites ça souvent? Je lui explique, c'est écologique. Les insectes, ça n'a aucune nuisance pour le voisinage. Vous allez voir, c'est formidable. Au bout de 4 heures, elle n'en pouvait plus. Elle est partie boire un café. Elle est revenue, j'avais toujours pas fini. J'étais épuisé, j'avais des ampoules. Enfin, c'était horrible. Et elle m'a donné 2 euros de pourboire. Donc, je suis reparti avec un billet de 20 euros. J'étais heureux comme tout. Le poing crispé sur ces 20 euros.
Oui, parce que vous réapprenez tout. Et c'est vrai. Alors, par exemple, pour les mains, par exemple, votre corps change, il prend des coups. Vous écrivez, on s'étonne, je n'ai pas mis de gants sur ces véritables outils que sont devenus mes mains, des mains d'œuvre, des mains qui palpent, servent, griffent, frappent aussi finement qu'une pince, aussi fort qu'une masse. Je n'y ai pas songé un instant. Un homme légèrement différent de celui que j'étais alors a pris place en moi. Donc, votre corps se transforme. Et puis, il y a, je dis parler du côté un peu balzacien comme ça, mais l'attitude des clients est terrible. Le pire client n'est pas celui qui paie peu, mais celui qui reste avec moi pendant mon intervention pour vérifier que je travaille correctement.
Ah oui, ça c'était terrible. Comme évidemment, je cafouillais, hein, il faut bien le dire. Bon, j'y arrivais à la fin, bon, j'ai fait quelques erreurs, j'ai percé des cloisons, j'aurais pas dû. Mais à la fin, j'arrivais assez bien, mais toujours restait en moi le doute, l'impression que je faisais pas bien. Et donc, quand j'avais un client qui me regardait, je me mettais à transpirer, à trembler, mais c'était terrible.
Et puis, il y a le bonheur, la nécessité aussi de se rendre utile.
Oui.
Vous éprouvez ce bonheur-là, vous dites, j'améliore très modestement la vie des gens, et ce n'est pas sans regret que je quitte ces lieux, que j'ai rendu plus agréable à vivre. Il y a quand même des... C'est un échange de services aussi,
il y a ce côté-là. J'ai fait ça pendant pas mal d'années, donc j'avais quand même un plaisir, effectivement. Et en particulier, je pense aux jeunes filles, parce que je suis un papa moi-même, j'ai des enfants, bon, même si je ne les vois plus et qu'ils me manquent. Mais quand j'allais chez des jeunes filles, enfin des jeunes filles, des jeunes femmes, étudiantes en fait, qui arrivaient de province, qui s'installaient dans un studio ou dans une chambre de bonne et qu'il fallait installer à peu près tout dans le truc, j'avais l'impression de rendre service à un enfant comme si ça avait été le mien. Et puis je voyais du coin de l'œil, sous l'oreiller, dépasser les oreilles du lapin. Du petit doudou qu'elles avaient emporté avec elles à Paris pour le soir se réconforter. Et c'est vrai que ça, c'était vraiment très agréable. Surtout quand elles me rappelaient l'année d'après ou 6 mois après, quand elles s'étaient mises en couple ou en colocation et qu'elles de nouveau faisaient appel à moi et que j'avais l'impression petit à petit, finalement, de faire leur nid comme ça. C'était très satisfaisant, ça, ce côté-là, oui.
Parce que c'est des maisons, enfin c'est des intérieurs
Mais
que
oui.
vous venez.
Ah,
finalement, c'est des déménagements. Vous êtes l'homme qui vient après ceux qui ont fait le déménagement. Vous vous installez.
Oui, oui, oui. Bon, il m'arrive aussi de casser des choses, hein, de casser des cuisines entières pour pouvoir les descendre aux encombrants. Mais j'entrais dans l'intimité des gens. Alors, encore une fois, des femmes, hein, souvent, parce que à Paris, en tout cas, c'est les hommes, les bras des hommes ont disparu. Il n'y a plus de père, il n'y a plus de mari, il n'y a plus de frère. C'est assez curieux. Les femmes sont quand même très, très seules et donc ont besoin de gens qui peuvent faire les choses à leur place parce qu'elles n'ont plus le temps. En plus, elles travaillent énormément.
C'est des travaux de force, des fois aussi.
Donc il faut bien un homme à un moment, sans aucun sexisme. Hein, mais, donc je faisais l'homme, hein, ce qui pour moi était une nouveauté puisque je viens d'une famille, donc comme j'ai dit, la bourgeoisie moyenne avec une mère un peu féministe. Donc je n'ai pas été éduqué du tout avec cette notion de l'homme est indispensable par sa force. Et tout à coup, je me retrouvais être obligé de faire l'homme chez des femmes, chez des inconnus. Et j'entrais dans une intimité que les portraits en photo que j'ai fait pendant 26 ans ne me laissaient pas entrevoir. Parce que quand j'arrivais chez des gens, et des femmes en particulier, tout était rangé, elles étaient toujours maquillées, les lits étaient impeccables, on préparait l'arrivée du photographe. Donc de toute façon, rien ne traînait. Hein.
Ouais.
Là, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que les femmes sont négligées, certaines sont même en peignoir, nu-pieds, il y a des rognures d'ongles sur les rebords de la baignoire. Et je travaille là-dedans. Et c'est vrai qu'il y avait un côté à la fois humiliant parce qu'il m'est arrivé d'être chez une cliente qui était en fait en stage dans la maison de couture d'une de mes ex.
Ah ouais.
Voilà. Donc le contraste entre ma vie d'avant où je sortais avec cette directrice de maison de couture et maintenant en train de travailler à quatre pattes pour une jeune femme qui était la stagiaire de cette maison de couture, c'était vertigineux pour moi, mais c'était assez jouissif aussi. Je dois dire qu'il y avait un côté, j'ai découvert des choses de moi aussi, jusqu'où j'étais capable d'aller pour gagner la liberté d'écrire. Ça m'a renforcé dans cette certitude que je ne vois pas ce qui pourrait m'empêcher d'arrêter maintenant, quoi.
Bien
sûr. Pas grand-chose.
Et ça fait, vous donnez comme un personnage de film, ça pourrait faire un film d'ailleurs, à pied d'œuvre.
Oui, les droits ont été signés.
Ah ben voilà, je sentais ça, vous voyez, c'est vraiment un personnage de film. Vivre sans traces, alors c'est vrai que grâce à votre livre, vous laissez des traces, mais le métier, l'invisibilité de ces travailleurs pauvres tient au fait, écrivez-vous, qu'à l'instar des poissons dans l'eau, ils ne laissent aucune trace de leur passage. Et la monotonie, parce qu'ils tournent en rond, finalement. C'est un cercle presque infernal.
Oui. Ben, je parle surtout, là, des gens qui travaillent au noir, parce que tout n'est pas au noir. Hein. On déclare quand même beaucoup de choses. Mais là, c'est vraiment... je pensais à pendant l'épisode du confinement, je livrais des repas. Donc, il y avait des cyclistes, des jeunes Africains avec moi, qui remontaient la piste cyclable. Et on avait tous notre chargement. Et il y avait un barrage de policiers. Et le seul qu'ils ont arrêté, c'était moi. C'est-à-dire qu'ils avaient une petite chance. C'est-à-dire qu'ils m'ont donné cette espèce de considération de bien vouloir m'arrêter. À leurs yeux, j'existais. Les autres étaient totalement invisibles. Ils les ont même pas regardés. Comme s'il y avait une consigne de laisser ces garçons sans papier circuler. Comme s'ils n'existaient pas, c'est comme si c'était des vélos automatiques. On les réduit totalement à un travail automatisé. Ce sont des robots vivants, mais aucune considération humaine. Et donc, j'étais heureux pour eux qu'ils ne se fassent pas arrêter, évidemment. Et en même temps, je me disais, mais c'est incroyable, jusqu'où va ce mépris, cette invisibilité de ces garçons, quoi.
Vous dites d'ailleurs, trop de professionnalistes, trop de calculs dans cette liberté-là, c'est une liberté qui ne rend pas libre. Citation aussi, les nouveaux pauvres dont je suis ne constituent pas une classe sociale homogène. Nous sommes les rejetons rejetés de ces systèmes-là. Et aussi, on méconnaît ma situation exacte, on s'y perd un peu, je suis à la misère, ce que 5 heures du soir en hiver sont à l'obscurité. Il fait noir, mais ce n'est pas encore la nuit. Donc c'est... Voilà, c'est un entre-deux, on pourrait dire aussi.
Oui, sans cesse. Vous passez d'un cocktail à Saint-Germain-des-Prés parce que vous êtes écrivain, donc vous êtes invité dans des soirées comme ça, et puis le lendemain, et même parfois pendant la soirée, vous recevez un texto et discrètement vous regardez, est-ce que vous pouvez venir demain à 8h, faut casser les toilettes. Et donc c'est
con, donc vous avez deux vies.
Mais oui. Et puis je pouvais pas vraiment en parler parce que j'avais peur de des réactions soit de pitié, soit de mépris. Donc en fait, j'ai gardé ça assez longtemps pour moi.
On va faire une petite pause musicale et nous reparlons de votre livre Franck Courtès.
Eh bien, Loïc Lantoine, Mauvais ouvrier, ça date de 2003, que je ne me trompe pas, c'est celui-là.
Mauvais ouvrier, mauvais compagnon, je m'ai cassé la gueule dans mon tour de France. Mon chef-d'œuvre était de la mettre en transe, quand l'œuvre est immense, c'est perdu d'avance. Mauvais ouvrier, mauvais compagnon. On compte plus les failles dans ma cathédrale, les carillons d'or font des bruits de mort. Les vitraux cassés m'ont tranché le corps, il y a dans la nef la bite d'un porc. On compte plus les failles dans ma cathédrale. J'ai l'amour amer. Le cœur en chaos, y'a ma tête à terre. J'ai le béguin bègue, je peux plus travailler. En femme de ménage, je n'étais pas bonne. Mon petit lit d'amour a les draps trop sales. Ça sent le renfermé, ma clientèle râle. Je crois bien que le pourboire, ça sera à peau de balle. En femme de ménage, je n'étais pas bonne. Le garçon de café s'est vite fait virer. Quand on pleure tout le temps, les piliers se barrent. Sur les genoux de la fille, j'ai vomi le bar. Dans le fond des verres, l'amour se fait rare. Le garçon de café s'est vite fait virer. Ah merde, j'ai l'amour amer. J'ai l'amour amer. Le cœur en chaos, y'a ma tête à tête. J'ai le béguin bégué. Je peux plus travailler. Je prends l'équipe de nuit, faut gagner sa mie. Il faut que je l'usine pour qu'elle prenne lustre. L'ennui à la chaîne, voilà qu'elle se frustre. Elle préfère les mains calleuses d'un rustre. Je prends l'équipe de nuit, faut gagner sa mie. Dans ma salle de classe, mon élève se lasse. Explique pas les vers, l'amour ça se vit. L'orthographe du cœur, ça se fait à l'envie. Fallait rien dicter là, elle est partie. Dans ma salle de classe, mon élève se lasse. Ah, merde, j'ai l'amour à merde. J'ai l'amour à merde, j'ai l'amour à merde. Le cœur en chaos, y'a ma tête à terre. J'ai le béguin bègue, je peux plus travailler. Que dans mon phare j'ai rien vu venir. Les grandes vagues à l'âme m'ont coupé du monde. J'ai lancé des lignes qui étaient pas fécondes. Et j'ai fait naufrage avec ma gironde. Planqué dans mon phare j'ai rien vu venir. C'est parti, remise, bois ton RMI. Prends la longue file des cœurs au chômage. Fais les petites annonces sans perdre courage. Pour trouver l'embauche des yeux sans orage. C'est partie remise, boiton RMI. Ah merde, j'ai l'amour à merde, j'ai l'amour à merde, j'ai l'amour à merde. Le cœur en chaos, y'a ma tête à terre. J'ai le bégam bègue, je peux plus travailler.
Vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4. Vous écoutez toujours l'émission Bibliomanie avec Franck Courtès pour À pied d'œuvre. Ça vient de paraître chez Gallimard. Franck Courtès, c'est vrai, on parle de la société du jetable. On jette les âmes, on jette les corps, on jette la vocation, on jette tout. Et vous revenez d'ailleurs à un moment donné dans votre livre, je reçoiterai tout au début, pour le vol des images, dites-vous, puisque vous êtes photographe, le vol des images, puisque d'une certaine manière en France, il s'agit bien de cela, passe en France pour une banalité. Une sorte de vol comme ça, de société du jetable.
Ben, je pense qu'avec le numérique, maintenant, c'est encore, ça doit être encore pire. Mais disons qu'à mon époque, oui, c'était assez fréquent. Je travaillais pour beaucoup de titres de presse. Et ils ne payaient pas. Les gens ne payaient pas. Régulièrement, ils ne payaient pas. Il y avait toujours un problème. Jusqu'au jour donc où alors j'ai quitté le magazine que j'adorais, pour lequel j'avais travaillé pendant 10 ans dans la musique. Je les ai quittés parce que je supportais plus. Et je crois qu'on en était à 1 an et demi de retard de facture, donc c'était insupportable. Mais un jour, j'ai eu une commande d'un magazine qui m'a commandé donc un portrait d'écrivain. Et donc il y avait eu, je sais plus, 8 photos publiées parce que c'était un gros sujet sur un jeune auteur en vue qui a confirmé d'ailleurs depuis. Et moi, ma puce, j'étais pas hors de prix. C'était 180 €. Donc, j'avais fait ça aussi parce que je trouvais que le sujet était intéressant. À l'époque, j'écrivais pas, hein, mais j'aimais bien de toute façon l'univers des écrivains, donc je l'avais fait. Et puis, j'envoie ma facture, pas de réponse. Je renvoie, pas de réponse. Je les appelle en disant « Ah oui, ça s'est perdu, renvoyé. » Bon, on me balade comme ça pendant je sais plus combien de temps, je crois ça. Plus d'un an. Jusqu'au jour où je pique un coup de sang, parce que c'était vers la fin de ma carrière, je commençais à en avoir vraiment marre. Je m'étais assis sur beaucoup de sommes bien plus grandes, hein, mais celle-là, je sais pas, j'avais pas envie de la laisser passer, donc je suis allé à la rédaction, je suis tombé sur le rédac-chef qui m'a expliqué que avec une certaine bravoure qu'avaient pas eu les autres en général, qui trouvent toujours des excuses pour vous enfumer, celui-ci m'avait bien expliqué non, mais de toute façon, on ne paye pas les petits photographes.
Ah. Alors,
parce que on sait que si vous engagez des poursuites, de toute façon, ça vous coûtera plus cher de prendre un avocat que de... Voilà, donc voilà, c'est le principe. J'avais trouvé ça incroyable.
Ouais.
Et c'est drôle parce que le magazine en question, le mois d'après le moment où j'étais venu essayer de récupérer mes 180 €, leur titre... C'était comment vivre au-dessus de ses moyens, avec quelqu'un qui était en couverture avec un gros cigare. Et là, je me suis dit, oh, ok, je quitte ce métier, genre, je peux plus.
Une sorte d'obscénité, d'ailleurs, de tout. Vous montrez, d'ailleurs, l'abus de pouvoir, parce que ce sont des abus de pouvoir, que ça soit dans le domaine intellectuel et artistique, que dans le domaine de la survie immédiate, du travail immédiat. C'est pareil, l'abus de pouvoir, il est là. Par exemple aussi, puis des phrases couperées, j'allais dire. Et ça, on me l'a faite, moi aussi, cette phrase-là. Ah. Faudrait que je te lise quand même. c'est un ami, donc, oui. Il comprend pas. Donc, il vous sort cette phrase, ça veut dire qu'il vous a pas lu.
Ouais, voilà.
Et qu'il vous lira peut-être un jour.
Il est très, très, oui, c'est très gentil. Hein, il m'invite à déjeuner, c'est formidable. C'est un soutien. Et puis, faudra que je te lise quand même. En fait, il n'aide pas du tout, parce que la première chose à faire, ça serait d'acheter le livre.
Et ça, c'est vrai que, voilà, aussi, il y a le problème, c'est que le métier, quel qu'il soit, n'est pas respecté. Il y a un non-respect et de la personne. Et de ce qu'il est et de ce qu'il fait.
Alors le métier d'écrivain ou
le métier d'écrivain et aussi de... mais je dirais presque tous les métiers dans votre livre finalement, oui. Parce que la photo, l'écriture,
oui, c'est vrai.
Et le métier, oui. Le job provisoire, même celui-là. C'est-à-dire que votre personnage, elle se heurte à chaque fois. Quasiment, sauf peut-être dans celui de l'écriture, quand même.
Oui, parce que c'est un irrespect policé, élégant. C'est-à-dire on est très, très, très gentil avec moi, on est aux petits soins. Mais oui, on n'a pas réfléchi à la manière de me rémunérer, enfin de me faire vivre de mon métier. C'est-à-dire ça, c'est quelque chose qui c'est un angle mort. C'est-à-dire c'est la littérature est faite par des gens... merveilleux, intelligent, gentil, intéressant, voilà, tout élégant. Mais il y a un angle mort, c'est que les auteurs ne sont quand même quasiment pas rémunérés, quoi. Et ça pose pas vraiment de problème. Alors bon, là, je trouve...
Ça passe presque comme une lettre à la poste.
Ouais.
Hein.
Bon, je salue quand même le courage de cette maison d'avoir publié un livre
qui... Vous êtes dans une bonne maison.
Prouve quand même qu'il y a un problème. Ouais. Donc c'est bien qu'ils aient pas mis ça sous le tapis. Mais c'est vrai que enfin, les écrivains et les producteurs dans la chaîne du livre, l'écrivain est celui qui gagne le moins. Bon, tout le monde le sait maintenant, je pense, mais toujours.
Les gens ne le savent pas toujours qu'un auteur gagne entre 1 euro et 2 euros par livre.
Oui, 2 euros.
2 euros, c'est dans le meilleur des cas.
Ouais, voilà, ouais.
Voilà. Quand il fait une signature, par exemple, s'il vend 10 livres, il gagne 10 euros.
Oui.
Voilà.
Je nous fais penser aux agriculteurs, quoi, qui depuis 20 ans se suicident à raison de je ne sais plus combien, un tous les deux jours. Parce qu'ils travaillent à perte, qu'ils s'en sortent pas, et que en fait les seuls dans la chaîne alimentaire, enfin dans la chaîne de distribution des produits alimentaires, les plus mal payés donc sont ces agriculteurs qui sont, et dans la chaîne culturelle c'est l'écrivain. Et je me suis dit c'est drôle, on a des destins assez parallèles, c'est-à-dire que c'est des on est considéré comme heureux de faire notre métier. On est des passionnés. Voilà, ouais. Donc, c'est pas la peine de compenser les efforts qu'on fait, parce que de toute façon, on le trouve nous-mêmes dans le... Et on n'arrêtera pas quelqu'un qui a un verger, qui vend ses pommes, quelqu'un qui a des bêtes et qui est fier de les élever correctement. Il va pas arrêter du jour au lendemain en disant « Bon, bah, puisqu'on me paye pas, j'arrête. » Non, il a ça dans le sang, il a investi, c'est sa vie, il aime son métier, il aime son... Bon, bah, en écriture, c'est pareil. On sait qu'un écrivain ne renoncera jamais à écrire, et que de toute façon, si un écrivain tombe, comme ça arrive malheureusement, hein, des gens qui font des dépressions, qui s'arrêtent, des milliers d'autres attendent à la porte, et donc on ne remet pas en question la rémunération de ce travail. Cela dit, je n'ai pas la solution, parce que c'est extrêmement compliqué, hein, parce que qu'est-ce que c'est un écrivain, à partir de quel moment on considère qu'on est professionnel dans l'écriture, dans l'art en général, c'est quand même...
C'est compliqué.
Mais extrêmement compliqué.
Vous soulignez bien ça, vous dites on boude les livres, on aime encore les auteurs. Donc il y a l'image de l'auteur en France qui est sur un piédestal aussi. Hein,
complètement.
En France, c'est ça. Mais j'ai l'impression aussi, alors il y a que vous écrivez, pourquoi écrivez-vous Franck Courtès? Parce que moi j'ai l'impression que vous écrivez, c'est simple, j'écris en partie contre le silence. Les vieux laissent la radio allumée toute la journée. Et voilà, il y a une sorte de lutte contre de passer le mur du son. J'ai eu l'impression en vous lisant que c'était un peu ça.
Oui, parce que d'abord, j'aime la solitude, mais c'est aussi une source de souffrance, la solitude. Et donc, j'ai trouvé une solution assez idéale. Je dois être seul pour écrire. Et quand j'écris, je ne suis plus seul, parce que je m'adresse à des amis imaginaires. Oui.
Pensez à votre lecteur quand vous écrivez ?
Alors, pas au lecteur, non, parce que ça serait perturbant. Non, je pense à des amis qui sont peut-être simplement des versions de moi. Diverses versions de moi. J'essaie de m'amuser moi-même, j'essaie de m'émouvoir moi-même. Mais je ne pense pas à vraiment à moi, je pense vraiment à des amis idéaux qui n'existent pas, un fantasme d'amis qui n'existent pas.
Une lumière un peu comme ça, au bout de ce chemin. Vous écrivez, on imagine beaucoup au fond, tant qu'il y aura de la place pour l'imagination, il y aura des dieux, des artistes et des monstres dans le noir.
Oui, parce que...
J'aime bien aimer cette phrase, je vous la cite.
Parce que c'est quand même étrange, cette histoire de cette place qu'il y a dans le cerveau pour l'imaginaire, et qui fait que même quand on sait qu'il n'y a rien, par exemple, enfin moi je vois ma compagne, quand elle est à la campagne, elle est incapable de sortir dehors, aller au tas de bois qui est plongé dans le noir, alors que elle sait qu'il n'y a absolument personne, et elle ne peut pas s'empêcher d'imaginer un monstre ou quelque chose, un danger. c'est cette place dans le cerveau humain qui fait qu'on supporte pas en fait l'ignorance et qu'on imagine immédiatement quelque chose, donc des dieux, à mon avis, et des personnages de romans.
Une petite veilleuse comme ça dans le noir, l'écriture. Il y a aussi la lecture. À un moment donné, on vous donne des conseils de lecture. Tu devrais lire Robert Linhart, L'Établi. Oui, je sais. Et puis, vous dites, j'ai lu avec passion, attention, gourmandise et surtout trois fois en entier À la recherche du temps perdu de Marcel Proust, autant de fois et avec autant d'enthousiasme, les romans de Céline. Pourtant, la première des choses qui me vient à l'esprit quand je pense à eux, c'est que l'un passait ses journées au lit et l'autre parlait à son perroquet. Voilà. À quoi ressemble d'ailleurs votre bibliothèque, Franck Courtais?
Elle est dispersée, elle est en désordre, il faudrait que je la classe, mais elle ressemble à une vie de lecteur plutôt moyen. Je suis pas un immense lecteur, mais je l'aime bien, la bibliothèque. J'ai tous les livres que j'aime, en tout cas je les garde. Ceux que j'aime pas, je les revends, voilà. Donc,
Est-ce que vous vous souvenez du premier livre que vous avez lu?
Ah, c'était Oui.
C'était Oui.
Ah oui.
Mais vous êtes bien sûr de cette génération de la bibliothèque rose.
Voilà, Oui.
Est-ce que vous avez un lieu, est-ce que c'est important pour vous d'avoir une table de travail, puisqu'on a parlé de... Il y en a qui sont très sérieux, des écrivains qui parlent d'établi, oui, de chantier d'écriture, etc. Je ne nommerai personne, mais enfin, il y en a qui sont, voilà, qui font tout un... Est-ce que vous avez besoin d'écrire en silence? Est-ce que vous écrivez en musique? Est-ce que
non,
vous avez des rituels d'écriture?
Oui.
Voilà.
Non, moi, je peux écrire... Alors, au début, c'était... Je cédais au romantisme, à l'image d'Épinal de l'écrivain, donc je m'étais fait un bureau, c'était très joli, etc. Et en fait, avec la précarité, quoi, maintenant j'écris près du poêle à bois, quoi, tout simplement. Donc c'est la table de cuisine. En fait, il faut juste que j'ai pas froid, parce que en fait c'est impossible quand on reste 2 heures immobile. De toute façon, même avec 18 ou 19 degrés, on a l'impression de geler. Donc voilà. Non, moi là, j'écris près du poêle. Du moment que c'est chauffé, je suis bien. En silence, évidemment, pas de musique. Et avec des rituels ridicules, je ne sais pas si je peux...
Bah, vous pouvez.
Il faut que le ménage soit fait, quoi.
Bah oui. Duras disait qu'elle avait besoin que sa chambre soit...
Ah bon,
elle le lit soit fait, voilà.
Ah, le lit. Ah,
non, le lit, entre autres, mais loin. Que ça soit propre, que oui, ça voilà. Soit, voilà, qu'elle ait une impression d'ordre. Enfin,
ouais, moi, de virginité, un peu comme quand on rentre dans une chambre d'hôtel et qu'il n'y a rien qui vient perturber, il n'y a rien, voilà. J'ai l'impression que s'il y a le moindre truc qui traîne et que j'ai l'impression que... Enfin, je vais obséder dessus, je me lève, je le fais, je retarde ma séance d'écriture, je fais le ménage. Donc, bon, je vis seul de toute façon et j'adore faire le ménage, donc c'est pas un problème. Mais voilà, c'est mon rituel.
Vous écrivez donc chez vous, alors sur l'ordinateur? Ou dans des carnets?
J'ai un carnet de travail en permanence, dans lequel je prends des notes dès que je pense à quelque chose ou que j'entends quelque chose. Comme ce midi, là, j'ai entendu ma compagne dire quelque chose de très drôle et de formidable et qui correspond à un personnage de mon futur roman. Et je me suis dit, bon, ben voilà, ça c'est parfait. Donc, je me suis interrompu. Là, j'ai pris en note sur mon téléphone, tout bêtement. Donc, je vais recopier ça dans mon carnet à la main. Et ensuite, à partir du carnet, j'ai mon ordinateur et je rédige à partir des notes.
Alors, si je comprends bien, c'est plutôt le matin que vous écrivez, dans les matinées.
Oui. Tous les matins, pratiquement tous les matins, et rarement l'après-midi. Je suis beaucoup plus fatigué, je reste factuel, il y a moins de correspondance qui se crée, les images sont moins belles, j'imagine moins. En fait, je suis plus dans le factuel, je fais avancer l'histoire, mais c'est moins habité.
Les personnages sont importants, vous vivez avec vos personnages, vous les... le roman, le récit, c'est un roman-récit, on pourrait dire, à pied d'œuvre.
Oui.
Ou un récit romanesque.
C'est-à-dire que les éléments sont vrais, la forme est romanesque. C'est-à-dire que j'ai arrangé pour que ça soit lisible, digeste. Non, le récit, ça aurait été trop ennuyeux, en plus, parce que ça aurait été répétitif. Non, j'ai trié.
Vous avez mis en scène.
Bien sûr. Mais même y a une histoire qui est pas exacte, qui s'est pas exactement passée de la manière dont je la raconte, mais qui est plus forte dans la manière dont je la raconte et qui est le condensé de plusieurs histoires qui se sont passées et que j'assemble. Voilà.
Combien de temps pour écrire ce livre ?
En fait, j'ai écrit les deux derniers livres en même temps. Donc,
Vous pouvez passer d'un livre à l'autre facilement.
Oui. J'ai retrouvé l'ouverture du fichier, c'était en 2019, et je l'ai donné en août 22. Donc, 3 ans, quoi. 3 ans, oui.
Et là, vous avez, quels sont vos projets, là, actuellement ?
Un nouveau roman, oui.
Là, c'est plutôt roman-roman.
Oui.
Et quelle est la différence, par exemple, quand vous écrivez un roman ou la nouvelle, l'art de la nouvelle, c'est quand même l'art du bref. On pense aux légendes photo, par exemple. La nouvelle, parce que...
Rien que le mot me fait sourire de plaisir, rougir de plaisir. Quoi. La nouvelle, pour moi, c'est comme si on parlait de mon amoureuse. Quoi.
J'ai l'impression.
C'est ma forme préférée.
D'ailleurs, vous avez obtenu le prix de la SGDL du premier recueil de nouvelles en 2013.
Et le prix de l'Académie française pour le dernier.
Eh ben, dites donc.
Qu'on va me remettre le 30 novembre.
Formidable.
Oui, je suis vraiment très, très heureux.
Et c'est vrai que vous avez écrit deux recueils de nouvelles, ce que je vois.
Oui.
Alors le bonheur de la nouvelle, il faut quand même que vous nous... C'est un genre quand même assez mal aimé en librairie, là.
Oui, c'est vrai.
En France, en tous les cas, c'est dommage.
Ouais. Non, mais je suis comme les gens qui... Enfin, la poésie ne se vend pas bien, et pourtant, les poètes adorent faire de la poésie. La nouvelle, c'est encore autre chose, mais oui, on est mal aimé, mais ce n'est pas grave, je continue d'en faire. Et j'ai mon éditeur qui me suit, donc ça, c'est...
Votre bonheur de l'art de la nouvelle, c'est quoi ? C'est la vitesse, c'est la concision,
c'est la puissance de l'histoire, quoi.
Ouais.
On s'en souvient. C'est le coup de feu. Vous voyez, quand on commence un roman... Excusez-moi, je fais du bruit avec mon bouchon.
Oh, attention.
Quand on commence un roman, il y a quelque chose de style... Vous parlez au lecteur en lui disant « Alors, il était une fois, il y a une belle histoire. » La nouvelle, c'est... On se penche vers lui, on lui dit... Il faut que je te raconte un truc. Il y a un côté comme ça, quoi. C'est hyper jouissif, quoi. Il y a un truc d'urgence, de puissance condensée. J'adore les chutes, j'adore ça, ouais.
Côté aussi cinématographique, mais en plus concis.
Oui.
Alors, Franck Courtès, on va annoncer, notre émission touche à sa fin, on va annoncer, quels sont vous aimez les rencontres avec vos lecteurs, quand même, hein,
oui.
Les prochaines, alors dites-nous tout.
Je me suis habitué, oui. Au début, j'étais timide, mais maintenant, ça va mieux.
Ça va mieux. Alors, nos auditeurs, ceux qui veulent venir...
Alors, la librairie des Fables à Château-Thierry, samedi matin, à 10h.
Librairie des Fables, Château-Thierry...
Samedi prochain.
Samedi prochain.
Dans deux jours. J'ai un truc, un festival, je crois que c'est... pas dire de bêtises. À Courbevoie.
Oui, alors Courbevoie.
Le 2 décembre. Là. Et ça s'appelle 24 heures des mots à Courbevoie. Je crois que c'est un truc, c'est un salon assez drôle. Il y a plein d'animations. J'avais déjà été invité. Et voilà, là je serai là. C'est les deux prochaines. Là, c'est en train de se calmer un peu. Hein.
Oui, écoutez, on arrive... vous n'avez pas de site internet encore sur votre travail ou...
Non,
si, je crois.
J'ai une amie qui s'en est occupée. Je crois que c'est franck.courtès, un truc comme ça.
On peut trouver votre site internet aussi, où il y aura les prochaines rencontres. Non,
je ne le remplis pas. Non,
vous ne le remplissez pas.
Non, il y a des photos dessus et les livres. Quoi, ouais.
Et les livres. Merci à vous, Franck Courtès,
merci beaucoup.
À pied d'œuvre. C'est un livre, une expérience de vie et un voyage au bout de soi-même. Est-ce que ce livre vous a changé quand vous l'avez ? Est-ce que on sent que c'est une nécessité de l'avoir écrit ?
Oui, à tout point de vue. D'abord, physiquement, je suis blessé. Je me suis fait beaucoup mal en faisant ces travaux parce que je n'étais pas habitué au travail manuel et que j'ai souffert. Donc oui, je suis abîmé, donc j'ai changé. Mentalement, j'ai pris aussi une espèce de densité politique que j'avais pas. Politique au sens vraiment pas partisane, hein, mais j'ai une conscience maintenant. Ça a élargi ma palette de vision, etc. Et puis financièrement, peut-être que comme ce livre marche mieux, je suis un peu plus installé dans le paysage littéraire. Ça, c'est une nouveauté. C'est très agréable. Genre, voilà.
Ça vous a permis aussi de tourner la page?
Oui.
Plusieurs pages.
Oui,
j'ai l'impression.
C'est le cas de le dire.
Plusieurs pages.
Oui.
De plusieurs vies, puisque
oui,
nous sommes faits
sûr.
De.
Ben oui,
j'ai l'impression que, voilà, vous avez. En tous les cas, c'est une expérience de vie et ça nous fait réfléchir sur le geste. Le geste qui nous amène à la création. Merci à vous, Franck Courtès, pour À pied d'œuvre qui vient de paraître aux éditions Gallimard. J'encourage nos auditeurs à lire aussi Autorisation de pratiquer la course à pied. Ça m'intéresse beaucoup. Donc, c'est votre recueil, premier recueil de nouvelles qui a eu le prix de la SGDL en 2013, donc il y a 10 ans. Et puis, il y a deux romans. Et la dernière photo, 6 récits, donc, voilà. Chez Jean-Claude Lattès. Hein, c'était en 2018.
Oui.
Et les liens sacrés du mariage, tout un programme. Ça, c'est moi qui dis tout un programme. C'est un recueil de nouvelles chez Gallimard en 2022. Voilà, notre émission touche à sa fin. Flo Descailloux s'impatiente en régie. Et puis, je vous dis aussi à vous tous que vous pouvez télécharger ou podcaster l'émission sur le site de Radio Libertaire et en parler aux amis de vos amis, comme on dit. Merci à vous tous et à la fois prochaine.
Merci.
Alors, j'ai adoré cette émission. C'est génial de faire la technique parce que, on écoute et c'est tout. Il n'y a rien à faire. Maintenant, pour conclure, l'une, un disque qui s'appelle Plouf Plouf et qui date, j'en sais rien, c'est pas écrit. Et il faut bosser. Faut bosser.
N'arrivera pas, que ça sert à rien d'essayer, que de toute façon tu sais pas
que t'es nul, t'es bonne à jeter.
Tous les matins sur le plat, ton énergie pour mieux râler, tu dis que l'on ne t'aime pas,
tu passes ton temps à bougonner.
Et dans ta paranoïa, tu joues la pauvrette ignorée.
Gna gna gna.
Je croyais tout tombe du ciel.
Ah, c'est lui qui va tomber sur toi.
Crac-ta-boum, paf.
Aïe, aïe, aïe. On ne peut pas tout obtenir en claquant les doigts, en tapant les pieds.
Non, faut bosser, faut bosser.
Oh. Rester au lit jusqu'à midi, à recoiffer le poil dans ma main.
Et tu oses dire que l'ennui est vraiment propre au genre humain.
Je suis là, scotché au bout du fil, et je mange 36-15. J'ai faim.
Tu éprouves un malin plaisir à faire courir le temps pour rien.
Hein? Mais c'est la vie des villes qui me rend complètement zinzin.
Complètement zinzin, gna 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 gna, complètement zinzin.
Mais moi je croyais tout tomber du ciel.
Déjà dit, c'est lui qui va tomber sur toi.
Crac-ta-boum, paf.
Aïe aïe aïe. Les doigts en tapant les pieds.
Non, faut bosser, faut bosser.
Ah ben c'est moi qui vous le dis, faut bosser, hein. Et pour faire la cour,
faut bosser.
Et pour faire l'amour,
faut bosser.
Pour sourire et pour pleurer,
150 plus à bousculer.
Pour faire le mur,
et pour grimper.
Et pour se faire bronzer,
faut y aller.
Faire la pluie et le beau temps,
faut bosser, faut bosser, faut bosser, faut bosser vraiment.
J'ai trouvé la solution. Une méthode d'auto-persuasion.
Bla 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 bla.
Positivez, positivez. Je suis ce qu'on appelle un génie. Vous connaissez la méthode Coué. À répéter au fond du lit. 100 à 200 fois la journée.
m'attendre.
Gna 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 gna, faut bosser, faut bosser.
Gna 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 gna, j'ai tout pour réussir.
Gna 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 gna, non non non, faut bosser.
Je suis Dieu personnifié.
Gna 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 gna, faut bosser, faut bosser.
Gna 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 gna, j'ai tout pour réussir.
Gna 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 gna, non non non, faut bosser.
Mais alors, faut bosser à mort.
Il s'appelle Ibrahim Rachid Makodou, elle c'est Jamila la belle ou Fatima. Elles ont contre leur sein des enfants aux yeux doux, des enfants juste nés qui ne comprennent pas. Eux, bras dressés, supplient le ciel noir et cruel, leur bouche n'est qu'un cri où résonne l'effroi. La houle les secoue, les gouffres les appellent. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Nous ne pourrons pas dire que nous n'avons pas vu les villages rasés et les vieilles en larmes, les yeux hallucinés, les haillons, les pieds nus, avec dans le lointain le grondement des armes. Voilà ce qu'ils ont fui par dunes et pierrailles, pour d'autres c'est la fin, qu'en savons-nous ici? La fin, sorcière noire, où faut-il donc qu'ils aillent? Ce n'est pas cœur léger qu'on engage sa vie. Et nous, voyant venir cette pure souffrance, nous laissons aboyer les bâtisseurs de haine, les bâtisseurs de murs aux vieilles idées rances qui sentent la charogne et les brumes anciennes. Et nous baissons les yeux, cœurs et portes fermées. Que dira-t-on de nous dans 100 ans, dans 20 ans? Eux suivent leurs chimères, acharnés, harassés. Et la nuit descend sur un monde indifférent.
Chanson pour le concours de chansons de marche, organisé par le ministre de la guerre, pour faire plaisir aux colons. Les gars, plus de refrain cochon, va falloir y mettre un bouchon. Les gars, plus de refrain cochon, va falloir y mettre un bouchon. Puisqu'en marche le colon nous prie de ne plus chanter de saloperie. Ding, ding, digue, dis donc, si qu'on ferait plaisir aux colons. Tout le long de la route chantons pour dérouiller nos ripatons. Tout le long de la route chantons pour dérouiller nos ripatons. Une chanson qui soit à cheval dessus le chapitre de la morale. Ding, ding, digue, dis donc, ça va faire plaisir aux colons. Chantons comme il ferait bon chez nous, comme il ferait bon de planter des choux. Chantons comme il ferait bon chez nous, comme il ferait bon de planter des choux. Ou dormir auprès de sa blonde, au lieu d'apprendre à tuer le monde. Ding, ding, digue, dis donc, ça va faire plaisir aux colons. Chantons qu'il ne faut pas détester les gens du patelin d'à côté. Chantons qu'il ne faut pas détester les gens du patelin d'à côté. Parce qu'il dit je t'aime dans un autre genre de patois que le nôtre. Ding, ding, digue, dis donc, ça va faire plaisir aux colons. Chantons-nous qui ne possédons rien, qu'on a soupé d'être des chiens. Chantons-nous qui ne possédons rien, qu'on a soupé d'être des chiens. prêt à bondir hors de la niche pour défendre le bien des riches. Ding, ding, digue, dis donc, ça va faire plaisir aux colons.
Lorsque j'ai quitté Mascouron, mon bout de ferme, dans un comté proche de Clermont-Ferrand, le shérif venait de faire construire la sienne pour y loger l'adjoint et sa maman. Sing along, Bob. Sing, sing along, tell my man. J'suis cowboy à Paname, mais c'est la faute à Dylan. Place de l'opéra, un flic du genre texan m'a dit tout en essuyant ses rébans. Mon gars, tu n'es pas d'ici, reprends ta selle, sinon je te fous, fis ça. En cabane, sing along, Bob. Sing, sing along, c'est mon man. J'suis cowboy à Paname, mais c'est la faute à Dylan. Le kid m'a dit, mène ici, y'a pas